Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au problème des urnes d'Ehrenfest. Le problème des urnes d'Ehrenfest est un problème qui est resté célèbre parce qu'il a alimenté des débats intenses au début du XXe siècle concernant l'origine de l'irréversibilité macroscopique. Il faut savoir qu'à l'époque, Boltzmann avait proposé le théorème H, qui est l'analogue du second principe de la thermodynamique, et des mathématiciens remettaient en cause ce résultat, notamment parce que, d'un point de vue microscopique, les comportements sont réversibles. Les interactions entre les atomes sont conservatives et à partir de là, les équations de Newton mènent à un comportement qui serait identique si on inversait le temps. Le paradoxe qui se pose, c'est que sur le plan microscopique, on a des lois de comportement qui sont réversibles, mais sur le plan macroscopique, l'expérience quotidienne correspond bien à des comportements irréversibles. Le problème des urnes d'Ehrenfest a été proposé par les époux Ehrenfest au début du XXe siècle pour essayer de résoudre ce paradoxe. Il s'agit de considérer deux urnes, une urne A et une urne B. L'ensemble des deux urnes contient deux grands N billes et puis on va à chaque pas de temps échanger une bille tirée au hasard d'une urne pour la mettre dans l'autre urne. Donc on va représenter l'urne A avec grand N plus petit m billes et l'urne B avec grand N moins petit m billes. Et ce qu'on observe, c'est la quantité petit m en fonction du temps. Donc à chaque pas de temps, petit m varie d'une unité, soit positive, soit négative. Et donc les questions qui vont se poser dans cet exercice va être déjà d'essayer de comprendre quelle doit être la distribution des petits m au temps long. Donc ça va être très similaire au problème à deux états qu'on a déjà traité dans le cours. Nous allons dans un second temps regarder comment la réversibilité micro se traduit en termes de probabilité d'évolution, soit dans le sens croissant, soit dans le sens décroissant. Nous verrons à la question 3 que cette évolution temporelle peut être aussi traitée sur un plan plutôt statistique, avec une équation maîtresse qui donne l'évolution de la probabilité de la valeur de m en fonction du temps. Et nous verrons que cette équation maîtresse mène à une équation macroscopique qui, elle, est bien irréversible. Alors, avant de commencer, nous pouvons déjà regarder une réalisation numérique du problème des urnes d'Ehrenfest. Donc, cette réalisation numérique, ce n'est pas exactement le problème des urnes d'Ehrenfest, c'est un problème très analogue qui est la répartition d'un gaz entre deux compartiments. On va partir d'un gaz qui est exclusivement dans l'un des deux compartiments et on va regarder l'évolution temporelle. Donc ce qui apparaît à l'issue de cette vidéo, c'est que naturellement, il est très peu probable de revenir à l'état initial. L'état initial est un état très extrême. On constate bien que l'évolution temporelle mène plutôt à une situation très équilibrée entre les deux compartiments. Et donc c'est ce qu'on attend également sur le problème des urnes d'Ehrenfest à temps long. Commençons par la première question. On se place à temps long, de sorte que le système oublie tout de la condition initiale, et on nous demande quelle est la valeur moyenne de m, et puis quelle est sa probabilité. C'est un problème qui est très analogue à ce que l'on a déjà vu dans les systèmes à deux états. On va pouvoir faire simplement du dénombrement pour estimer quels sont les micro-états accessibles. Donc, suite aux résultats des premiers TD, on sait déjà que la distribution à temps long va être une distribution binomiale. Si on cherche à faire le lien avec ce que l'on a vu dans les systèmes à deux états dans les premiers TD, on peut faire directement la relation entre la quantité n plus m et puis le petit n que l'on traitait à l'époque. Et donc on avait établi que la probabilité de petit n, c'était une loi binomiale. Sauf que dans le problème qui nous intéresse ici, le nombre total de particules, c'est 2 grand n. Et donc la distribution qui porte sur les petits m va être juste obtenue en remplaçant petit n par petit m. Donc cette loi binomiale, on sait qu'elle a une moyenne qui est nulle. On sait également qu'elle a une variance qui vaut grand n sur 2, de telle sorte que les fluctuations relatives sont très faibles. Ce qui est intéressant de noter malgré tout, c'est que quelle que soit la valeur de m, même pour des valeurs très extrêmes, la probabilité n'est jamais nulle, elle est toujours strictement positive. Cela signifie également que n'importe quel micro-État peut être observé en théorie. On peut estimer le temps de récurrence d'un micro-État comme une échelle de temps caractéristique pour passer d'un micro-État à l'autre, fois l'inverse de la probabilité. Alors il se trouve que ce temps de récurrence est en fait exact et ça a été montré quelques années plus tard. Si on essaye d'appliquer cette relation à une situation très extrême, typiquement petit m égale grand n, on va avoir... Donc on obtient un temps de récurrence proportionnel à 2 à la puissance n, même en considérant des petits systèmes, par exemple une centaine de billes, c'est-à-dire grand n égale à 50. Et si l'on prend pour le temps tau la femtoseconde, c'est-à-dire parmi les petits temps caractéristiques de vibration à l'intérieur des molécules, on va avoir... Donc on va obtenir des dizaines de millions d'années. Autrement dit, certes, la récurrence est possible, mais en réalité, elle met énormément de temps à pouvoir être observée. Sur des systèmes qui seraient macroscopiques, c'est-à-dire avec des grands n de l'ordre de 10 puissance 23, il est absolument impossible de retrouver dans un temps raisonnable la condition initiale. Donc les micro-états sont certes équiprobables, mais on n'en explore en réalité qu'une petite fraction à l'échelle de l'expérience. Passons à présent à la deuxième question. Donc on s'intéresse à une situation particulière où le système est arrivé dans un état M0. À partir de là, la réversibilité microscopique nous dit qu'a priori, on a autant de chances de croiser M0 en augmentant ou en diminuant. Donc on va essayer d'établir ce résultat. Donc si l'on part de M0 et que l'on arrive au pas de temps suivant à M0 plus 1, on va appeler la probabilité d'avoir augmenté PC pour P croissance. Et par contre, si on arrive à M0 moins 1, on va appeler la probabilité P et D pour décroissance. Donc la probabilité de croissance, ça suppose qu'on a choisi une bille dans l'urne B et qu'on l'a mis dans l'urne A. L'urne B contient grand N moins M0 bille à l'instant S, et donc ça veut dire qu'on a choisi l'une de ces billes parmi les deux grand N billes. À partir de là, PC vaut... De la même manière, la décroissance suppose que l'on a pris une bille de l'urne A et qu'on l'a mis dans l'urne B. Il y a grand N plus M0 bille dans l'urne A et on a choisi l'une de ces billes parmi les deux grand N billes. À partir de là, on a... Intéressons-nous à l'instant S-1. Comme la dynamique microscopique est parfaitement réversible, le sens du temps n'a pas d'importance. À partir de là, être en M0 plus 1 à l'instant S-1 ou être en M0 plus 1 à l'instant S plus 1 correspondent aux mêmes probabilités. On a donc... Cela nous donne donc toutes les possibilités d'évolution entre le pas S-1 et le spa S plus 1. Quelles sont ces possibilités? Soit on a croisé M0 dans le sens de la croissance, soit on a croisé M0 dans le sens de la décroissance. Dans les deux cas, la probabilité est PC fois PD, ou bien on a été un extrémum, c'est-à-dire qu'on a atteint M0 comme un maximum, à ce moment-là la probabilité c'est PD au carré, ou bien M0 est un minimum, et à ce moment-là la probabilité c'est PC au carré. Si l'on regarde attentivement ces résultats, on constate que la situation la plus probable, c'est que M0 soit un extrémum. Plus précisément, si M0 est positif, la situation la plus probable, c'est que M0 soit un maximum. Ou bien si M0 est négatif, la situation la plus probable, c'est que M0 soit un minimum. En aucun cas, croiser M0 n'est la situation la plus fréquente. Dès qu'on est dans une situation trop déséquilibrée, c'est-à-dire un M0 trop proche de grand N ou trop proche de moins grand N, eh bien on va avoir beaucoup plus de probabilité d'être un extrémum que d'être croisé. Tous ces résultats à l'échelle microscopique sont restés fondés sur l'étude d'une évolution temporelle spécifique. On peut décider d'avoir une approche alternative qui consiste à regarder les distributions des états possibles en fonction du temps t. Et donc ça va être l'objet de la question 3. Dans cette question 3, nous allons chercher à établir l'équation maîtresse qui régit l'évolution de la probabilité d'être en M à l'instant S, sachant que la condition initiale était en M0. Donc on va noter cette probabilité. P PS2M sachant M0. Donc la question, c'est de savoir comment cette probabilité évolue en fonction de S. Quelle est la relation entre P à l'instant S et P à l'instant S plus 1. Si l'on est en M à l'instant S plus 1, c'est que l'on a soit été en M moins 1 à l'instant S et que l'on a transféré une bille de l'urne B vers l'urne A, ou bien l'on était en M plus 1 à l'instant S et l'on a transféré une bille de l'urne A vers l'urne B. Cela nous donne donc... Par ailleurs, pour que cette équation maîtresse soit complète, il faut bien préciser la condition initiale. À l'instant 0, M vaut M0. À ce stade, on a une équation discrète et adimensionnée. L'objet de la question 4 va être de convertir cette équation en une variante dimensionnée. On va associer à M une échelle de longueur et à S une échelle de temps, de telle manière à se ramener à une équation différentielle, c'est-à-dire traduire cette équation discrète en une version continue. Ce que l'on propose, c'est de donner une échelle de temps. Le temps, ça va être la variable petit s fois un petit incrément de temps tau. On va également se donner une échelle de longueur, donc un petit x qui vaut la variable petit m fois une longueur caractéristique delta. Et puis, on va se mettre dans une situation spécifique où le petit tau va devenir un temps très court, le petit delta une échelle de longueur très courte, donc à l'échelle macroscopique des choses infinitésimales. Et puis, le nombre de particules, le grand n, va tendre vers l'infini, avec une contrainte particulière, c'est que le produit de grand n fois petit tau va rester une grandeur finie. Donc à présent, on va reprendre l'équation maîtresse que l'on avait à la question 3 en la réorganisant un petit peu, de telle manière à faire apparaître des dérivés par rapport au temps et par rapport à l'espace. Donc, avec cette structure, l'équation maîtresse fait apparaître au membre de gauche une différence purement temporelle. Le premier terme à droite correspond à une dérivée de x fois p de x, où m va être remplacé par x, et puis le dernier terme en bas correspond à une dérivée seconde de p par rapport à x. À présent, on va introduire les grandeurs dimensionnées dans cette équation maîtresse. Donc on va convertir des s en t et des m en x. Alors un petit point de rigueur, donc la probabilité sur x, c'est une densité de probabilité sur un espace qui a une dimension de longueur, donc c'est une quantité qui a une dimension inverse à une longueur. Donc concrètement, quand on passe de la probabilité sur m à la probabilité sur x, il y a un facteur delta qui intervient. Ce facteur delta se supprime partout puisqu'on a les probabilités à gauche et à droite. En revanche, là où on a introduit en dehors des probabilités les quantités x, donc on a x plus delta au début du second membre et x moins delta dans le terme suivant, là il faut diviser par delta pour assurer les bonnes dimensions. À présent, en faisant intervenir des facteurs 1 sur tau ou 1 sur delta, on va être capable de faire apparaître les dérivées partielles de la probabilité par rapport au temps et par rapport à la position. Donc à partir de là, on identifie immédiatement l'équation différentielle qui régit l'évolution de la probabilité. Cette équation fait apparaître deux constantes caractéristiques du problème. Le paramètre gamma qui représente la force de dérive du système dans le temps et le paramètre d qui s'apparente à un coefficient de diffusion. Donc le résultat de cette question aboutit à une équation qui est bien connue, qui est l'équation de Smoluchowski. Cette équation fait apparaître un terme de dérive et puis un terme de diffusion. Pour essayer de comprendre un petit peu la dynamique derrière cette équation, on peut essayer de regarder les solutions pour une condition initiale donnée. Donc, le plus simple, c'est de considérer par exemple une condition initiale très piquée autour d'un point et de voir comment le système évolue. Donc j'ai tracé ici les solutions pour une situation extrêmement piquée autour de la position adimensionnée 2. et je trace l'évolution des probabilités de présence adimensionnées en fonction du temps. Donc ici, les grandeurs sont toutes volontairement adimensionnées de telle manière à ce qu'une valeur de 1 pour la position corresponde à l'écart type final attendu et une valeur de 1 pour le temps correspond au temps caractéristique pour atteindre cette situation finale. Et donc on voit qu'effectivement, passé un temps caractéristique de 1, on aboutit à une distribution gaussienne, qui est en fait la limite de la distribution binomiale du système à deux états, ce qu'on a établi à la question 1. Et donc on atteint cette situation équilibrée au bout d'un temps caractéristique de 10 ici. Si je m'intéresse au temps court, j'ai une situation qui est très piquée, et donc qui va évoluer avec d'une part un étalement et d'autre part une dérive pour converger progressivement vers la situation d'équilibre. Donc l'évolution temporelle macroscopique qu'on observe ici est bien une évolution irréversible. Thank you.